Directeur Jules, Radio Insolite, on sort à peine de la conférence présentation de l'association Sea Cleaners. Bonjour Yvan, vous êtes le président fondateur. Vous venez d'expliquer qu'en fait, on pouvait être bénévole, on pouvait s'impliquer dans votre association. Alors, comment faire et pourquoi faire ?
En fait, une association, quand elle a 30 salariés, elle ne va pas pouvoir aller faire grand-chose. Elle peut faire de la stratégie, elle peut élaborer plein de documents, mais elle peut pas avancer si elle a 100 ses bénévoles. Et une association comme The Sea Cleaners, on touche tout le monde. On touche la problématique du plastique, on touche la problématique des océans, et on touche la sensibilisation, donc on a besoin de tout le monde. En fait. Et donc tout le monde peut facilement trouver 5, 7, 8 heures par mois pour venir dans une association, collecter les déchets dans la nature, collecter les déchets dans les villes, participer à des opérations de sensibilisation, tenir un stand à Polytech, tenir un stand dans un festival de musique, tenir un stand sur une aire d'autoroute. On a des centaines d'événements comme ça répartis en France tout au long de l'année. On a une délégation régionale ici à Lyon qui est très forte, avec 30 bénévoles qui sont vraiment très actifs. Donc voilà, il faut nous rejoindre, il faut s'inscrire sur le site internet thecycleaner.org et puis on va faire plein de choses ensemble.
Ça peut être ouvert aussi bien aux petits, aux moyens, aux grands ?
Oui, alors c'est toujours un tout petit peu plus délicat avec les enfants, mais quand ils sont accompagnés de leurs parents, ça se fait très bien. Hein, surtout pour les collègues de déchets sauvages, bien souvent les parents viennent avec leurs enfants à ces collectes.
Pour ce qui concerne cette action, c'est quand vous étiez navigateur que vous en avez pris conscience ?
Ah bah moi, oui, c'est parce que je suis un amoureux de la mer. Moi, je ne peux pas vivre sans le contact de l'eau, de la mer, des vagues. Et franchement, ça m'a déchiré le cœur de naviguer dans ces plastiques. Ça m'a vraiment bousillé une partie de mes croyances. Et donc, je me suis dit que l'humain était terrible. Mais j'ai cru je crois en l'intelligence humaine pour pouvoir redresser les situations. Je crois que les choses sont longues, sont lentes, sont très progressives. Mais il faut y aller. Ça mérite de se battre. Les activistes qui vont vous dire c'est la fin du monde, c'est fini, je trouve ça absolument catastrophique comme message. On voit déjà des évolutions sur le réchauffement climatique, c'est peut-être pas suffisant, mais heureusement qu'on s'est bougé le cul pour déjà acter de ce qu'on a fait changer. Et les océans, c'est que le début. Ça fait pas si longtemps que les scientifiques nous parlent des océans. Donc voilà, c'est le moment ou jamais de se mobiliser et de tous ces gens qui sont passionnés, qui n'a pas été en vacances au bord de la mer, qui n'est pas sensibilisé par cette pollution. Donc je crois beaucoup au fait qu'on puisse réunir vraiment un maximum de gens pour cette cause.
Dernière question, durant la conférence, on a parlé beaucoup de pays et je vous ai interrogé, comment ça se fait que les entreprises qui fabriquent ces déchets, comment elles ne sont pas plus sensibilisées ?
Alors, les entreprises, effectivement, ont un cran de retard. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire qu'elles sont encore lentes dans leur process et elles sont encore, toujours dans un modèle économique où il faut répondre à des demandes très précises sur la croissance, sur les dividendes, sur la finance. Et c'est vrai que le paramètre RSE, le paramètre sociétal et environnemental, c'est un peu encore un petit compartiment de l'entreprise, mais alors que ça devrait vraiment, une entreprise devrait respirer RSE, aujourd'hui ça devrait être fondamental qu'une grande partie des bénéfices d'une société partent dans le RSE. Je peux vous dire que c'est des cacahuètes aujourd'hui, c'est vraiment des cacahuètes quand des groupes comme multinationales sont capables de mettre que 100 000 ou 200 000 euros dans leur service RSE, c'est juste honteux, quoi. Et donc aujourd'hui, elles n'ont pas compris encore que c'était essentiel pour pouvoir donner du bien-être et donner de l'engagement aux jeunes qui veulent recruter. Aujourd'hui, ils se plaignent tous d'un manque de recrutement. Ils pensent tous que c'est des jeunes qui n'ont pas envie de bosser. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ces jeunes, ils veulent juste que l'entreprise, oui, elle a besoin d'avoir un équilibre financier. Oui, elle a besoin de faire attention à ses comptes. Mais ils n'ont pas compris qu'ils veulent entendre un chef d'entreprise qui ait vraiment la foi, l'engagement, qui ait vraiment envie de se dire « Je vais me battre pour les océans, je vais me battre pour les forêts, je vais me battre pour la santé de ces animaux, je vais me battre ». Et moi, des discours comme ça de chefs d'entreprise, mais tu peux pas savoir, c'est 1 sur 100. Ils n'en ont rien à péter. Et donc, voilà, donc moi, j'ai mon rôle de les défoncer, de leur dire, vous avez rien compris, il faut évoluer.
Puis j'aime bien parce qu'il y a le langage qui va avec, qui est très, très vrai.
Oui, il faut, c'est simple, clair, net et précis. Donc, mais c'est vrai qu'il faut secouer le cocotier, c'est le moment.
Merci à vous.
Ouais, merci.
Eh bien, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux d'être à Lyon, à Viva Fabrica. J'espère qu'on va passer un bon petit moment. Donc, c'est un petit peu, on est un petit peu loin des océans, mais on va quand même en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Yvan Bourgnon. Donc, je suis navigateur, mais je suis issu de plus près de la montagne, en fait, que de la mer, puisque j'ai eu la chance de naître en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, près de, dans le Jura. Donc, c'est grâce à des parents qui étaient... qui rêvaient à travers les bouquins, qui sont partis faire le tour du monde en voilier, alors que j'avais l'âge de 8 ans en famille pendant 4 ans. Donc ça, évidemment, ça m'a donné le virus de la mer et de la voile et de l'aventure. Et donc j'ai eu cette chance de faire le tour du monde au début des années 80. Et donc vous imaginez bien qu'à l'époque, bon, les océans étaient relativement propres et épargnés par tous ces plastiques. Et donc, c'était évidemment, ça a nourri toute ma jeunesse, toute ma gaieté, tout mon enthousiasme. Ensuite, il a fallu revenir en France, aller un petit peu à l'école. Et puis, en France, vous savez, la course au large est bien développée. Donc, j'ai eu cette chance, à côté de mon frère, de faire 25 années de compétition avec les plus beaux bateaux du monde, donc ces voiliers de course au large qui sont incroyables. Et puis, plus récemment, en 2010, j'ai fait le choix de ralentir un petit peu par choix de sobriété, par choix écologique et par choix aussi de soif d'aventure, soif de découverte, de lever le pied un petit peu sur cette course au large qui n'est pas forcément non plus exemplaire. Certes, elle utilise le vent comme source d'énergie, mais les bateaux sont foutus plein de carbone, plein de composites et donc pas forcément très écolo. Mais donc du coup, je me suis retrouvé à faire le tour du monde en petit catamaran de sport. Donc c'est vraiment deux coques, un mât, voile, c'est tout simple. On ne peut pas faire plus simple, pas de GPS, pas d'électronique, pas de cabine, pas de protection. C'est vraiment une navigation la plus épurée possible. Donc une navigation qui a pris un an et demi. Donc c'était avant tout, à ce moment-là, entre 2013 et 2015, une aventure d'abord avant tout, un défi sportif. Mais quand je me suis retrouvé à naviguer en fait du côté de l'Indonésie, du Sri Lanka et des Maldives, j'ai pas mal été confronté à cette pollution des plastiques qui n'existait pas 33 ans plus tôt. Et puis là, j'ai réalisé que c'était moi, en fait ma génération, qui avait un peu pollué, contaminé ces océans. En rentrant de ce tour du monde en 2015-2016, je me suis dit qu'on ne faisait pas grand-chose pour ça, que les rapports d'hygiène ne donnaient pas grand-chose sur les océans à l'époque. Et donc, on voyait bien que ces océans s'acidifiaient et se polluaient à vitesse lumière. On parle de 12 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. D'un côté, on a deux grands fléaux sur les océans. La surpêche, que vous connaissez évidemment, qui est un vrai problème, et de l'autre côté, l'acidification, essentiellement par les plastiques. Et cette consommation de plastique a explosé, elle est grandissante. On parle de 10 fois plus de plastique qu'on consommait et produit sur la planète en 2100 par rapport à aujourd'hui. Et déjà aujourd'hui, on a déjà consommé plus de plastique qu'au dernier siècle. Donc vous voyez que ce n'est pas une courbe qui va s'inverser. Alors c'est vrai que le plastique, quand il est dans les... voiture, il allège les voitures et nous permet de moins consommer. Quand il est dans les hôpitaux, il est essentiel pour notre santé. Mais c'est vrai que quand il est dans les supermarchés, il est un petit peu plus embêtant celui-là parce qu'il se retrouve très rapidement dans la nature. Et vous le savez, même ici à Lyon, quand un plastique part dans la nature, il finit essentiellement dans un ruisseau, dans un cours d'eau, dans une rivière et puis dans un fleuve et donc toujours à la mer. Et donc c'est bien un fléau qui concerne tout le monde, y compris nous les terriens là, très loin à l'intérieur des terres. Et donc on est tous concernés parce que 80% des plastiques qu'on voit dans les océans viennent vraiment de la terre. Et donc en 2016, quand je me suis posé ces questions-là, je me suis retrouvé à la COP 22 de Marrakech, je me suis dit mais il y a des gens ici qui viennent vendre des stations d'épuration, il y a des recycleurs, il y a des tas de gens qui viennent faire du business et tout, mais ils sont où les gens qui ont envie de se battre pour essayer de protéger ces océans? Je ne les voyais pas bien. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de créer une association qui s'appelle The Sea Cleaner et d'essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait élaborer. Alors, non pas en étant un activiste pur et dur écologique, comme vous connaissez certainement, mais plutôt en essayant de travailler intelligemment, justement, avec les entreprises, avec les industriels, pour essayer de les faire progresser. Parce qu'évidemment, si l'industrie ne progresse pas, on a beau être activiste dans son coin et faire la révolution et faire des grèves et tout ça, ça ne va pas être suffisant. Et donc, moi, j'ai vu ça d'une manière très pragmatique. Et la première constat qu'on s'est fait, qu'on s'est dit, mais alors, évidemment, quand on a été voir les politiques, les autres ONG nous ont dit, La solution, elle est simple, c'est la sensibilisation. Alors moi, je crois à la sensibilisation, évidemment, et elle a fait son chemin en France, parce qu'on a quand même aujourd'hui 2/3 des gens qui respectent à peu près ça, qui ne jettent plus leurs déchets, qui ne font attention à leurs mégots, mais on a quand même encore 1/3 de la population qui n'est pas exemplaire, et donc il y a tout un chemin à parcourir. Mais la sensibilisation, évidemment, c'est la solution à moyen et long terme. Mais quand on voit tous ces pays qui consomment excessivement de plastique, et je peux vous dire qu'en Afrique, en ce moment, ça arrive à Mac 2, le plastique, parce que le pouvoir d'achat augmente, et donc le plastique, c'est la première chose qu'on achète quand on a envie de consommer. Et donc tous ces pays-là, bah, on voit bien que en fait, les solutions de recyclage, de tri, de tout ça, ne vont pas arriver aussi vite que le plastique lui-même, et que la sensibilisation, ça va prendre du temps. En France, on sensibilise, mine de rien, depuis les années 80. Alors, on a peut-être accéléré les choses un peu plus récemment, mais ça fait longtemps qu'on nous parle de... Moi, je me souviens, mes parents me disaient déjà de ne pas jeter les déchets par terre. Donc, on a quand même progressé petit à petit. Et la production de plastique et la consommation de plastique est arrivée aussi petit à petit, progressivement. Donc, on a su contenir à peu près les choses. Mais là-bas, bah, évidemment, parfois zéro éducation, du plastique qui arrive à fond la caisse. Donc, moi, mon constat, ça a été... Tout simple, c'était de dire il faut aussi collecter ces déchets plastiques. Il ne faut pas simplement les laisser sensibiliser et attendre 20 ans, 50 ans, un siècle à certains endroits pour que ça agisse. Il faut faire le terreau pouvé de la mer. Et donc moi, en tant que bon marin, je me suis dit, on va inventer tout bêtement un bateau qui va aller collecter les déchets plastiques à grande échelle. Alors évidemment, quand j'ai annoncé ça en 2016, on nous a pris pour des fous. C'est vrai que l'océan, c'est grand, c'est gigantesque. On se dit qu'il n'y a pas vraiment de solution pour aller ramasser une épinosse, une botte de foin. Mais on s'est un peu entêté dans ça. Et ce qui nous a conforté d'y aller, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ces fameux 80% de plastique qui viennent de la terre et qui viennent des fleuves. Et oui, on ne pourra pas aller ratisser toute la surface des océans, mais aller collecter dans les embouchures des grands fleuves, dans les ports, dans les rivières, justement pour capter ce plastique qui flotte encore avant qu'il parte dans le fameux septième continent, avant qu'il se décompose en microparticules, là on a une vraie opportunité de retenir ce plastique avant que ça soit trop tard. Et comme ça va être grandissant cette pollution, ça nous semble un peu évident de fabriquer ces bateaux qui vont traverser 40 fois l'estuaire du grand fleuve pour aller collecter ces déchets. Donc de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut travailler avec l'industrie, il faut travailler avec la meilleure ingénierie possible, il faut s'entourer des meilleurs. Et en France, en plus, il se trouve qu'on est très bons là-dessus. On a des bons architectes navals, des bons ingénieurs, des bons marins, des bons sur les énergies renouvelables. Donc en fait, on a fait un consortium technique et on s'est dit, on va essayer de faire travailler ces gens pendant 5 ans pour essayer de voir ce que ça donne. Peut-être qu'au bout d'un an, peut-être qu'au bout de 5 ans, on nous dira que c'était utopique, peut-être que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, on s'est dit qu'il fallait aller dans cette voie-là. Alors vous l'avez compris, c'est tout le contraire du néoludisme. Du néoludisme qui pense que la technologie dessert complètement en fait l'avancée de l'écologie, l'avancée de l'humain. Et nous on est plutôt dans le pragmatisme, on se dit il y a une pollution et donc elle ne va pas se décélérer et donc il y a des solutions et donc il faut passer à l'action et essayons d'utiliser l'intelligence humaine au contraire pour essayer de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc au début, ça n'a pas été simple parce qu'on partait d'une page blanche et donc il fallait vraiment passer par tous les niveaux. Est-ce qu'on fait un bateau de 50 mètres, de 500 mètres de long? Est-ce qu'il va aller à la voile? Est-ce qu'il va utiliser du gaz? On ne savait pas grand-chose de tout ça au début, mais c'est ça qui a rendu le projet ultra passionnant. Et donc on a vraiment fait un tour de table. Et au début, on cherchait simplement à faire un bateau qui collecte les déchets plastiques en mer. De là, au fil des années, le bateau il est devenu un vrai bateau-usine qui est capable de traiter les déchets plastiques en mer en le pyrolysant, c'est-à-dire en le chauffant à haute température pour qu'il devienne lui-même soit un carburant, soit une énergie électrique qui est capable d'alimenter le mental, le bateau lui-même. Donc le bateau, en fait, on a réussi à faire en sorte qu'il utilise finalement le vent comme source d'énergie, parce que c'est un bateau à voile, le solaire et le plastique lui-même qu'on va collecter comme source d'énergie, ce qui nous permet d'avoir aussi un impact carbone assez faible avec ce genre de bateau construit en acier qui est lui-même recyclable à 85%. Et donc, il n'y a pas besoin tant qu'on peut limiter la casse en termes d'empreinte, on le fait. Alors, je vais vous montrer déjà une première petite vidéo qui va vous montrer un petit peu tout ce que peut faire une association comme la nôtre, de la sensibilisation jusqu'à la collecte des déchets. grâce à vous tous, l'association aujourd'hui, bah, c'est 40 salariés, 2500 bénévoles, présents dans 5 pays. Donc on avance très fort malgré notre jeunesse. Donc bah, vous savez, vous avalez tous, nous tous, on avale l'équivalent d'une carte bancaire de plastique chaque semaine. Hein, donc c'est considérable. Alors il y a là actuellement des nanoparticules de plastique en suspension dans l'air. Il y a du poisson qui sont remplis de plastique. Et, donc dans les glaciers, il y a du plastique. Donc forcément, on est en train d'avaler ces nanoparticules en permanence. Et donc ce qu'il faut bannir pour protéger les océans, c'est vraiment les plastiques des supermarchés à tout prix. Alors, aujourd'hui, si vous enlevez tous les sacs plastiques de la surface de la Terre, toutes les bouteilles d'eau plastique, vous allez supprimer 40% de la pollution des océans. Donc c'est des gestes tout simples, mais ça a tout de suite une efficacité incroyable. Et c'est vrai qu'en France, bah, l'eau potable, elle est scalée. Il y a certes encore des nanoparticules de plastique dedans, mais dans une bouteille d'Evian, on a aussi des nanoparticules de plastique hein, qui se libèrent. Donc on peut se passer aujourd'hui d'une bouteille d'eau sans problème. On a des courbes comme ça qui fonctionnent très bien. Et puis, effectivement, le but, c'est vraiment de faire en sorte que dans nos caddies, on arrive à supprimer tous ces plastiques, hein, de remplacer le mieux, c'est évidemment le vrac, évidemment, mais le carton, même le verre parfois quand il est en circuit court, ce sont des matériaux qui sont à privilégier. Et vraiment, on pense qu'en mettant notre plastique dans une poubelle jaune, on pense que ce plastique va être recyclé et va revenir dans le supermarché, mais pas du tout, puisqu'on recycle aujourd'hui que 26% des plastiques en France. Il y a encore la moitié de nos plastiques qui sont enfouis sous terre, hein, dans notre pays, c'est considérable. Et puis, il faut bien savoir que tous ces plastiques qu'on recycle, eh ben, en fait, on mélange des tonnes de plastiques ensemble, qui ont des toxicités dans tous les sens, des pare-feux, etc. Et donc, on ne maîtrise plus la caractéristique technique de ce plastique. Et donc, on ne peut pas le remettre, en fait, au contact d'un aliment, au contact d'une madeleine et d'un jambon. Donc, ce fameux plastique qui est dans les supermarchés, c'est toujours de la matière vierge, c'est toujours du pétrole, c'est toujours du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est une pollution à tous les niveaux, aussi bien pour les océans que pour, évidemment, le réchauffement climatique. Alors, j'ai eu la chance, depuis maintenant 6 ans, d'avoir rencontré à peu près 500 entreprises et industries. Et c'est vrai que, moi, je trouve que ça bouge vraiment. Surtout dans notre pays, en France, je trouve qu'il y a vraiment plein d'industries, il y a plein d'entreprises qui se remuent les fesses, qui essaient de trouver des solutions, en tout cas en interne, pour minimiser leur impact, pour minimiser leurs déchets, pour remplacer leurs gobelets plastiques par les gobelets carton, pour consommer moins, pour éduquer leurs chauffeurs à utiliser moins de carburant quand ils conduisent, etc., etc. Il y a vraiment une grande majorité d'entreprises qui font des efforts considérables. Mais ce qu'ils n'ont pas encore bien compris, ces industries, c'est qu'elles sont relativement attrayantes, mais il y a encore effectivement un décalage énorme, surtout depuis la sortie du Covid, entre en fait les attentes de nos jeunes là, qui ont 20-30 ans, et puis l'offre aujourd'hui d'emploi de nos entreprises. Elles n'ont pas compris encore, ces entreprises, que ces jeunes cherchent un engagement certain dans l'entreprise. C'est vrai que de mettre un baby foot et de faire du team building, bah, c'est bien, mais en fait on se rend compte que c'est aujourd'hui plus du tout suffisant. On veut rentrer dans une entreprise, mais parce qu'elle a un engagement pour la société, pour la planète, pour l'environnement, pour le bien-être des gens, pour aider le monde extérieur en fait. Et en fait, l'entreprise aujourd'hui, elle est beaucoup trop encore recroquevillée sur elle-même. Elle essaye de bien faire, elle essaie de trouver des solutions en interne, mais elle pense toujours égoïstement, elle pense toujours à ses actionnaires, alors qu'à un moment donné, elle se doit d'être exemplaire, elle se doit d'être une entreprise à mission, elle se doit de tourner vers l'extérieur. Qu'est-ce que je contribue? Est-ce que je suis prêt à perdre la moitié de mes bénéfices pour le bien de la planète? C'est ça que les jeunes veulent entendre, c'est ça qu'ils veulent avoir quand ils rentrent dans une entreprise. Et c'est vrai que l'entreprise aujourd'hui, l'industrie n'est pas tout à fait prête encore par ce message, alors qu'elle est hyper attrayante. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans plein d'industries. C'est vrai qu'on a cette image un peu faussée des années 70 où on se fait mal en travaillant dans l'industrie. On a vraiment du bien-être, on a vraiment, moi j'ai vu des salariés qui adoraient travailler dans ces entreprises. Mais voilà, mais il y a ce petit décalage encore sur les attentes des jeunes et sur cette offre et sur les attentes des actionnaires. J'espère vraiment que ça va progresser dans les prochaines années. Alors en ce qui concerne le projet The Sea Cleaner, donc ce bateau Manta, bah, il a évolué comme je vous l'ai dit. Il est devenu donc d'un bateau collecteur, il est devenu un bateau usine, puis après il est devenu un bateau scientifique, parce que nos scientifiques nous ont dit on va vous donner des datas mais on n'en a pas assez. Et donc on s'est dit, mais on n'a pas envie de voir d'un côté des bateaux scientifiques qui dépensent des milliers de tonnes de gasoil à faire des datas, et nous, d'un autre côté, qui ramassent des plastiques. On va faire en sorte que ces bateaux qui collectent les déchets puissent aussi accueillir ces scientifiques. Donc il y en aura 8 à 12 scientifiques par bateau. Et ils vont pouvoir analyser, décortiquer ces morceaux de plastique, les géolocaliser, les qualifier, les quantifier, pour qu'on puisse partager tout ça. Parce que l'idée de le faire tout ça en monde associatif, c'est bien de pouvoir partager, parce que c'est bien de développer un bateau, mais si c'est pour garder dans son coin, si c'est pour faire du business et faire de la marge, ça sert à rien. Nous, notre idée, c'est au contraire, pour une fois, d'attendre les Chinois qui nous disent « on veut vous copier ». On va leur dire « allez-y, on vous donne les plans, on va même vous dire les erreurs qu'il ne faut pas faire, on va même vous accompagner, on va même vous conseiller, et allez-y, construisez 10 bateaux, construisez 15 bateaux ». C'est vraiment dans cette stratégie-là, et c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire, même si c'est un projet industriel, même si c'est un projet qui doit être hyper organisé, hyper pointu, il faut le faire de manière associative pour qu'après ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Parce que le problème du plastique, c'est, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez Veolia ici, mais Veolia, ils aiment bien recycler du carton, du fer, du métal, de plein de choses, mais le plastique, ça les emmerde. Ça les emmerde parce qu'on perd de l'argent, parce que c'est déficitaire. Ça va quand on fait un trou sous la terre et qu'on enfouit nos plastiques, ça coûte pas trop cher, mais dès qu'il s'agit de faire une usine de recyclage et qu'il s'agit de revaloriser nos plastiques, ça coûte toujours plus cher que ce que proposent les mairies, les trucs. Donc c'est toujours déficitaire. Donc c'est vrai que c'est un vrai fléau parce qu'on n'a pas une économie aujourd'hui qui est très positive là-dessus. Et tant que le baril de pétrole ne sera pas multiplié par 10, ça sera toujours moins cher d'aller chercher l'énergie à la pompe, à la station-service, plutôt que d'essayer de revaloriser ces plastiques. Même si on espère quand même faire quelque chose de bien avec ces plastiques. Alors là, il y a le Montard, il y a le bon bateau. Lui, il va traiter ses plastiques, il va se servir comme source d'énergie. Mais vous l'avez vu peut-être rapidement en image, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Il y a aussi des petits bateaux qu'on a développés qui, eux, vont faire que de la collecte et qui vont ramener leurs déchets à terre. Et donc là, par contre, il faudra trouver des solutions à terre. Parce que si c'est bien de collecter les déchets, vous avez résolu les trois quarts du problème. Mais si après, il y a une montagne de déchets qui s'agglutinent sur terre, au Bangladesh, aux Philippines ou ailleurs, c'est pas le but ultime. Donc nous, en fait, on va mettre des petits bateaux là-bas dans ces pays-là. On a déjà un premier bateau qui fonctionne à Bali depuis quelques semaines. Mais ça sera, on essaie de trouver toujours une solution à terre. Donc on développe aussi des solutions de containers pour traiter les plastiques. Donc solution containerisable, il y a trois technologies. C'est l'incinération que vous connaissez déjà. C'est la pyrolyse, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permet de refaire globalement du pétrole à partir du plastique. Et puis la troisième solution, c'est vraiment de refaire un granule de plastique, parce que des industries du plastique, il y en a partout dans le monde, même dans les pays en voie de développement. Et donc, si on refait de manière locale un petit granule de plastique avec le plastique qu'on a ramassé avec notre petit bateau, on va pouvoir l'amener à 100 km de là, dans une industrie, et faire en sorte que, en circuit court, on puisse réutiliser ces plastiques et puisse avoir une deuxième vie, voire une troisième. Aujourd'hui, si vous réunissez 20 montants, donc les grands bateaux que vous avez vus dans les 20 fleuves les plus pollués du monde, et vous remettez par-dessus ça 2000 petits mobulas, en fait vous avez globalement une flotte de 2000 et 20 bateaux, vous avez un investissement de 1 milliard d'euros pour des bateaux qui vont durer 50 ans. Et donc nous, on est persuadés que ça en vaut la peine. On a dépensé plus d'un milliard d'euros en 2021 pour les tests Covid en France. Donc il ne faut pas me dire qu'on n'est pas capable de financer tous ces bateaux à l'échelle de la planète, quand on sait que c'est le deuxième plus grand fléau écologique après l'échauffement climatique. Donc nous, on y croit, on met ces bateaux à l'eau, on est en train de mettre le petit à l'eau, le grand va être mis à l'eau en 2025. On le fait grâce au concours de l'industrie, grâce au concours des entreprises. On a déjà 80 entreprises françaises qui nous soutiennent. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça va être le bateau de tout le monde. Tout le monde va pouvoir se l'approprier, les donateurs, les entreprises. Et on va pouvoir montrer au monde que en France, on a su faire un outil qui est absolument génial. Et une fois qu'il aura prouvé ce qu'il est capable de faire, et bien là, ça sera vraiment le moment d'aller voir tous les grands pays de ce monde, notamment tous les pays d'Asie du Sud-Est, puisqu'il y a à peu près 12 pays là-bas qui représentent 65% de la pollution. Alors, je vous laisse découvrir en image quand même ce mental dont je vous parle depuis tout à l'heure.